Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est bientôt contre histoire. Mais avant ça, nous retrouvons la chronique Absurdistan de nos amis de Campus FM et de la CIMAD.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. La CIMAD, association de solidarité, agit avec les personnes migrantes depuis 1939. Elle défend leur accès aux droits jusque dans les lieux de privation de liberté. La CIMAD va à la rencontre de ces personnes enfermés pour le seul fait d'être en situation irrégulière sur le sol français. Absurdistan. Un rendez-vous radiophonique proposé par la CIMAD en partenariat avec Campus FM. Préparé et présenté par les intervenants et bénévoles de la CIMAD au centre de rétention de Toulouse.
Lorsque j'ai rendu visite à Madame E, elle est au centre de rétention depuis 32 jours. Le juge des libertés vient de reconduire sa rétention pour 30 jours. Alors cette dame, elle est venue du Nigeria, elle est passée par l'Italie, et elle avait obtenu en Italie la protection subsidiaire, c'est-à-dire un statut de réfugié. En France, elle a été incarcérée, mais quelques mois, pour un motif que je n'ai pas cherché à creuser pendant l'entretien. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est que son titre de séjour italien avait expiré pendant son incarcération, et elle n'a donc pas pu le faire renouveler. Comment partager cet entretien avec Madame E? Elle a d'abord du mal à parler, mais dès le premier mot, elle pleure. Elle va pleurer pendant tout le temps que j'ai passé avec elle. Dans cette pièce minuscule, sans fenêtre, qui sert de parloir. Entre nous, une cloison de plexiglas. Nos deux masques. En fait, je ne verrai que ses yeux. Tantôt, il me fixe. Tantôt il se dérobe, mais cela m'a suffi à me transmettre son désespoir. Désespoir d'être ici, alors qu'elle a accompli sa peine de prison. Elle pensait être normalement libérée, mais cette liberté n'était pas au rendez-vous. Car dès sa levée d'écrou, elle a été menottée, elle a été amenée au centre de rétention. Pourquoi ? On lui dit qu'elle n'a pas de papier. Mais elle ne demande qu'une seule chose, qu'on la laisse aller en Italie pour régulariser son statut. Or, justement, on l'en empêche. Son désespoir est mêlé d'un intense sentiment d'injustice. Elle va me le répéter souvent. Ici, c'est pire que la prison. Alors je lui demande pourquoi, si ce sont les conditions matérielles, l'inaction. Elle me dit, en prison, tout le monde sait pourquoi il est là. Ici, on ne sait pas. On ne comprend tout simplement pas. Ici, c'est comme si on n'existait pas. Or, elle a une vie, elle a une petite fille de 9 ans qui l'attend en Italie. Elle a dû la confier aux soins d'une amie parce qu'elle n'a aucune famille en Europe. Et c'est cette petite fille, c'est elle qu'elle veut rejoindre. C'est pour elle qu'elle est restée en vie jusqu'ici, au milieu de tous ces dangers. C'est pour elle qu'elle souhaite une vie meilleure. En fait, elle ne connaît personne ici, mais ce n'est pas cela qui lui importe. Non, me dit-elle, elle n'a aucun besoin d'argent, ni d'aide matérielle, ni de visite supplémentaire. Ce qu'elle veut seulement, c'est la justice. Elle ne comprend absolument rien à ce que lui a dit le juge des libertés. Le juge a reconduit sa rétention déjà 2 fois. Et il n'est pas sûr que ce soit seulement un problème de traduction, hein, parce que madame est anglophone. Elle comprend d'autant moins que lors de la même audience, ce même juge a libéré une autre femme qui était avec elle au centre de rétention depuis 1 mois, comme elle. Alors pourquoi ? Pendant tout cet entretien, je vais ressentir ce noyau dur de révolte, d'incompréhension de madame E. Cette volonté farouche qu'elle a de ne vouloir aucune pitié. Elle veut rester debout. Malgré l'humiliation quotidienne d'être prisonnière, sans l'être vraiment, elle veut la justice. Sinon, mieux vaut se tuer, dit-elle. Que répondre à cela ? Madame E a été reconnue réfugiée en Italie. Et la France veut vraiment l'expulser dans un pays où elle est menacée ? Où est la justice ? Pas ici, en tout cas.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde.
J'invite celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet à lire le rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention. Le rapport est disponible sur le site web de la CIMAD. lacimad.org/publication. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe bénévole qui intervient au CRA, contactez-nous au 05 61 41 13 20 ou par mail toulouse@lacimad.org.
Ainsi s'achève le billet radiophonique de nos voyages en Absurdistan. Pays abracadabrantesque et désespérant que nous vous ferons visiter régulièrement au travers des témoignages de nos visites de personnes retenues, ainsi que de points d'information générales sur ce système et sur la vie au CRA de Corne-Barrio. À bientôt.
Grand merci à la CIMAD et à l'équipe de Campus FM. Bien sûr, en ce mois d'août 2021, je devrais vous parler du GIEC. Le monde entier parle du GIEC et de ses conclusions et de ses alertes successives. Et celle de ce mois d'août est particulièrement flippante. Mais je vois pas pourquoi je répéterai les commentaires de toute la presse. Vous avez déjà lu tout ça. Par contre, ça me rappelle dans mes années 70 et 60, ça me rappelle un bouquin que j'avais découvert à l'époque d'un Américain qui s'appelait Vance Packard. Vance Packard a écrit « L'ère du gaspillage ». Et ça m'avait énormément frappé. Il prévenait la planète que quand on aurait épuisé tous les minerais qu'on utilisait sans économie, eh bien, il faudrait fouiller des monceaux d'ordures. Vous savez, tous ces monticules qui se développent, qui se sont développés, dont on ne sait pas quoi faire maintenant, à la périphérie des grandes villes, des grandes ou des petites villes. L'image des gens qui fouillent les monticules d'ordures m'avait marqué durablement. Alors maintenant, évidemment, on a inventé des déchetteries. Et puis, il y a des camions qui partent des déchetteries et qui vont remplir des bateaux ou même des avions pour que les déchets les plus dangereux aillent enrichir les côtes africaines. C'était le thème de l'ère du gaspillage de Vance Packard dans les années 60. Et dans le même ordre d'idées, on peut hurler devant le mensonge de l'affaire nucléaire que les écolos de la dernière heure, qui n'ont rien compris, prétendent une économie à bas carbone, si c'est pas à zéro carbone. Ça me rappelle la visite récente, il y a moins d'une semaine, qui nous a été faite par, soi-disant, un ingénieur du nucléaire qui commentait avec colère et mépris l'affiche des accidents du nucléaire que nous avions présentée à la Garonne. Il y avait les dates de tous les accidents nucléaires en France et en particulier les accidents successifs à Saint-Laurent-des-Eaux en octobre 1969 et encore en 1980. Il y a eu, ces deux années-là, il y a eu un accident de niveau 4, pour ne pas dire de niveau 5, parce que c'était quand même la fonte du réacteur. Les deux fois. Et c'était encore plus grave, donc, en 1980. Vous trouverez ça sur Wikipédia, sur l'Universalis, sur tout ce que vous voudrez d'authentique et de breveté. Mais cet ingénieur du nucléaire ne devait pas connaître ces sources-là. En tout cas, il devait être bien payé pour prétendre le contraire. Donc à Saint-Laurent-des-Eaux, en 69 et en 80, il y a eu fonte du cœur de deux réacteurs différents, à la suite de quoi on a balancé dans la Loire, pendant 5 ans, des déchets contenant du plutonium. Le plutonium qui met 24 000 ans à perdre la moitié de sa radioactivité. À la suite de quoi, Marcel Boiteux, qui était à l'époque directeur de l'EDF, a dit « Mais c'est pas grand-chose !» Je ne sais pas si Marcel Boiteux a eu des enfants. Mais moi, rien que ce commentaire du responsable de l'EDF, je trouve que c'est un crime. Vous pouvez trouver, si vous lisez Le Point, ou si vous cherchez sur votre ordinateur, sur Le Point du 24 mars 2011, vous pouvez trouver l'article 60 ans de secret d'État, où on vous raconte en particulier ces accidents du nucléaire et ceux de Saint-Laurent-des-Eaux. Et ce pauvre Benoît Hamon, vous vous souvenez? Ce bon jeune homme, si honnête et si démocrate, qui veut rentabiliser l'EPR pour que les Français n'aient pas payer des milliards pour des prunes. En voilà un raisonnement intelligent. Pauvre garçon. Et quand on nous pètera à la figure le PR, on dira merci Benoît Hamon. Les Chinois, ils arrêtent le PR qu'on leur a servi sur un plateau. Il doit bien y avoir une raison.
On jure que la conscience, ce n'est pas bon pour la guerre, alors tu dis merci bourgeois, vive l'objectivité. Tu tranches les problèmes avec impartialité. Merci bourgeois, dans ta légalité, ça sent le renfermer. Un jour tout peut changer. Quand Boris Vian chantait, on tuait le déserteur. Depuis rien n'a changé, on le colle en prison. Il y a des super lois qui donnent à réfléchir. C'est 32 ans d'exil. Si tu ne veux pas moisir, alors tu dis merci bourgeois de m'offrir un bon toit. Dans tes prisons, tu prends bien soin de moi. Merci bourgeois, car j'ai le temps de penser qu'un jour ce sera ton tour d'être le condamné. Pour te faire exempter, tu as joué tes dernières cartes. Tu as trop cru à la chance, déjà il faut que tu partes. Déguisement transhumance, totale métamorphose. Pour finir ton air con, on te fait prendre la pause. Alors tu dis merci bourgeois, je ressemble au petit soldat, soumis et résigné à faire n'importe quoi. Merci bourgeois, je subis ton diktat, j'apprends à te connaître, ça se retournera sur toi. Décide, soldat, tu veux lutter pour obtenir enfin les quelques libertés. Pour la révolution contre l'exploitation, fais reculer l'armée, les flics et les patrons. Alors tu dis tu vois bourgeois, on n'en caserne pas la révolte qui s'enfle contre toi. Vois bourgeois que les petits soldats renieront malgré toi ton pouvoir et ta loi. Tu vois bourgeois que les petits soldats renieront malgré toi ton pouvoir et ta loi.
Et voici un discours, une fois n'est pas coutume. Ce discours est la réponse du chef indien Seattle en 1854. Au gouvernement américain qui lui proposait d'abandonner sa terre aux Blancs et promettait une réserve pour le peuple indien. Seattle, qui a dû naître vers 1786 et qui est mort en 1866, est avant tout le nom d'un grand chef indien des tribus Dumawish et Sukamish. Il est connu en particulier pour ce discours de 1854, lors des négociations avec le gouvernement des États-Unis, dans lequel il exprimait son refus de vendre les territoires indiens. L'authenticité des mots est contestée. Il existe au moins trois versions de ce texte. Grâce aux notes prises par le docteur Henry Smith, négociateur du gouvernement, une première version fut publiée dans le Seattle Sunday Star, en octobre 1887. Celle qui fait aujourd'hui figure de référence date des années 70. Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? L'idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau, comment est-ce que vous pouvez les acheter? Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. chaque aiguille de pin luisante, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes sont sacrés dans le souvenir et l'expérience de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres transporte les souvenirs de l'homme rouge. Les morts des hommes blancs oublient le pays de leur naissance lorsqu'ils vont se promener parmi les étoiles. Nos morts n'oublient jamais cette terre magnifique, car elle est la mère de l'homme rouge. Nous sommes une partie de la terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs. Le cerf, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les sucs dans les prés, la chaleur du poney et l'homme, tous appartiennent à la même famille. Aussi, lorsque le grand chef à Washington envoie dire qu'il veut acheter notre terre, demande-t-il beaucoup de nous? Le grand chef envoie dire qu'il nous réservera un endroit de façon que nous puissions vivre confortablement. Entre nous. Il sera notre père et nous serons ses enfants. Nous considérons donc votre offre d'acheter notre terre, mais ça ne sera pas facile, car cette terre nous est sacrée. Cette eau scintillante qui coule dans les ruisseaux et les rivières n'est pas seulement de l'eau, mais le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons de la terre, vous devez vous rappeler qu'elle est sacrée et que chaque reflet spectral dans l'eau claire des lacs parle d'événements et de souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure de l'eau est la voix du père de mon père. Les rivières sont nos frères, elles étanchent notre soif. Les rivières portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devez désormais vous rappeler et l'enseigner à vos enfants que les rivières sont nos frères et les vôtres, et vous devez désormais montrer pour les rivières la tendresse que vous montreriez pour un frère. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu'il l'a conquise, il va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux, et cela ne le tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants, et cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux et le patrimoine de ses enfants tombent dans l'oubli. Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, piller, vendre, comme les moutons ou les perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Il n'y a pas d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc, pas d'endroit pour entendre les feuilles se dérouler au printemps ou le froissement des ailes d'un insecte. Mais peut-être est-ce parce que je suis un sauvage et ne comprends pas. Le vacarme semble seulement insulter les oreilles. Et quel intérêt y a-t-il à vivre si l'homme ne peut entendre le cri solitaire de l'engoulevent ou les palabres des grenouilles autour d'un étang la nuit? Je suis un homme rouge et ne comprends pas. L'Indien préfère le doux son du vent s'élançant au-dessus de la face d'un étang et l'odeur du vent lui-même lavé par la pluie de midi ou parfumé par le pin pignon. L'air est précieux à l'homme rouge, car toutes choses partagent le même souffle. la bête, l'arbre, l'homme, ils partagent tous le même souffle. L'homme blanc ne semble pas remarquer l'air qu'il respire. Comme un homme qui met plusieurs jours à expirer, il est insensible à la puanteur. Mais si nous vous vendons notre terre, vous devez vous rappeler que l'air nous est précieux, que l'air partage son esprit avec tout ce qu'il fait vivre. Le vent qui a donné à notre grand-père son premier souffle a aussi reçu son dernier soupir. Et si nous vous vendons notre terre, vous devez la garder à part et la tenir pour sacrée, comme un endroit où même l'homme blanc peut aller goûter le vent adouci par les fleurs des prés. Nous considérerons donc votre offre d'acheter notre terre. Mais si nous décidons de l'accepter, j'y mettrai une condition. L'homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne connais pas d'autre façon de vivre. J'ai vu un millier de bisons pourrissant sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train qui passait. Je suis un sauvage et ne comprends pas comment le cheval de fer fumant peut être plus important que le bison que nous ne tuons que pour subsister. Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes? Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt à l'homme. Toutes choses se tiennent. Toutes choses se tiennent.
Dans ses murs, aux perspectives nues, ville couloir de béton, gigantesque prison, où la société joue à spectacle continu, et vous fait consommer les loisirs frelatés, à distiller l'ennui. Des banlieues, au dortoir cubique, tu ramènes ta carcasse brisée par le boulot, macérée, laminée par les heures de métro. T'écartèles ta vie aux formes géométriques, comme outil dérisoire. Société de service, pièce de la machine ô combien remplaçable, produit, consomme et bouffe et dort comme une brute, et ravale tes désirs qu'on n'a pas codifiés. Prisonnier du travail, prisonnier de la morale, t'agites-tu encore dans cette obscurité, vers un puits de lumière, une vraie liberté, qui briserait les chaînes des classes exploitées. Les chaîne des classes exploitées. Tu as connu des luttes, des groupes, des syndicats, toute l'histoire des partis, c'est partie de l'histoire, qui revendiquent guère plus avec le patronat qu'une modeste obole pour le pouvoir d'achat. Et puis si t'en peux plus, il te reste le PMU, Mini Grégoire, Belmar et la Sainte Télé. Ces bordels du social à décongestionner. Notre envie de refaire une autre société. Laisse tomber les machines, se profiter pas payer. Laisse tomber les machines, le patron a cabossé. Laisse tomber les machines, se profiter pas payer. Laisse tomber les machines, le patron a cabossé. Laisse tomber les machines, se profiter pas payer. Laisse tomber les machines, le patron a cabossé.
Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qu'ils foulent est fait des cendres de nos aïeux. Pour qu'ils respectent la terre, dites à vos enfants qu'elle est enrichie par les vies de notre race. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Nous savons au moins ceci. La terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la terre. Cela nous le savons. Toutes choses se tiennent, comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. Même l'homme blanc, dont le Dieu se promène et parle avec lui comme deux amis ensemble, ne peut être dispensé de la destinée commune. Après tout, nous sommes peut-être frères. Nous verrons bien. Il y a une chose que nous savons et que l'homme blanc découvrira peut-être un jour, c'est que notre Dieu est le même Dieu. Il se peut que vous pensiez maintenant le posséder comme vous voulez posséder notre terre, mais vous ne pouvez pas. Il est le Dieu de l'homme et sa pitié est égale pour l'homme rouge et le blanc. Cette terre lui est précieuse. Et nuire à la terre, c'est accabler de mépris son Créateur. Les Blancs aussi disparaîtront, peut-être plus tôt que toutes les autres tribus. Contaminez votre lit et vous suffoquerez une nuit dans vos propres détritus. Mais en mourant, vous brillerez avec éclat, ardent de la force du Dieu qui vous a amené jusqu'à cette terre et qui, pour quelque dessein particulier, vous a fait dominer cette terre et l'homme rouge. Cette destinée est un mystère pour nous, car nous ne comprenons pas. Lorsque les bisons sont tous massacrés, les chevaux sauvages domptés, les coins secrets de la forêt chargés du fumet de beaucoup d'hommes, et la vue des collines en pleine fleur, ternie par les fils qui parlent. Où est le allié? Disparu. Où est l'aigle? Disparu. La fin de la vie, le début de la survivance. signé Chef Seattle, 1854. Maintenant, de mon temps, dans les années 60, le collectif Adret, dont je vous ai déjà parlé, avait fait un petit ouvrage qui s'appelait « Travailler 2 heures par jour ». Oh, je sais bien, si on travaille 2 heures par jour, on va tous devenir d'affreux paresseux. On aura surtout le temps de s'occuper de nos affaires. Travailler 2 heures par jour pour la collectivité, pour permettre l'accès à chacun aux biens publics, pour devenir tous plus autonomes, comme disait Renaud, pour savoir tous utiliser une perceuse, une machine à coudre, ou faire la cuisine, ou faire pousser des tomates. Mais tout ce qui nous rend autonomes est condamné par le pouvoir politique, par tous les pouvoirs politiques. Parce que l'autonomie de l'individu, c'est la liberté. Et ça, c'est très dangereux. Seul le capitalisme et la boulimie des gadgets inutiles et énergivores qui nous a inoculés pendant les 30 glorieuses et après, hélas, pour avoir, comme les Américains, cette boulimie qui nous a fait rêver et qui nous tient toujours, qui nous donne pour seul rêve d'avoir comme les Américains frigo, machine à laver, bagnole. Seule cette connerie de capitalisme a réussi à nous mener à notre perte, à ce réchauffement climatique qui emporte tout sur son passage, qui tue, qui brûle et qui noie, les plus pauvres surtout, ceux qui n'ont rien fait pour ça. Alors, on peut revenir à la leçon de Seattle. Seattle, le philosophe, le prophète, le grand sage, le chef indien qui respecte avec son peuple la rivière et les bisons, l'aigle et les poissons, l'abeille et le serpent, puisque toutes les créatures sont nécessaires et s'équilibrent. Toutes les créatures sont respectables, le hallier et le torrent, le chevreau et l'oiseau. Et la France se prépare aux Jeux Olympiques prochains. Arrêtez les Jeux Olympiques qui pourrissent les mentalités enfantines ou celles des faibles d'esprit, qui n'ont d'autre rêve que la puissance et la gloire, le toujours plus, dont ils s'enorgueillissent par procuration. Plus haut, plus vite, plus fort. Imbécilité totale. Et pourquoi pas plus libre? Ô Coubertin, ça t'est pas venu à l'idée? Les politiques ne parlent pas souvent de liberté. C'est trop dangereux. Alors la devise de Coubertin a seulement flatté l'effort des autres pour aller plus haut et faire rêver d'altitude, de conquête spatiale, pour aller plus vite, car le temps étant de l'argent, il fallait que le gogo, qui faisait gonfler la fortune de Coubertin, fasse le maxi pour lui rapporter davantage. À lui et aux multinationales, partie prenante de cette mascarade qui nous prend pour des imbéciles et qui détruit la santé et la vie des sportifs dopés par leurs entraîneurs, lesquels sont poussés par leur gouvernement, comme on voit pour la Chine et la Russie, mais pas que. Et plus fort, la force, la valeur suprême du fascisme, le refrain de Mussolini et consorts, la belle devise que voilà. Et pour résoudre crise et Covid, Macron appelle celui qui avait été chargé de transformer l'hôpital en machine à fric avec la technique comptable du paiement à l'acte pour être compétitif. Supprimons les lits d'hôpital pour mieux faire tourner les services. Les gens sont en bonne santé, pas besoin d'autant de lits d'hôpital. L'hôpital n'est pas un hôtel. Pourtant, monsieur le Président, la population vieillit.
Ah oui?
Mais les vieux votent peu et ne manifestent jamais. Soyons pragmatistes et concurrentiels. Et là-dessus, l'hiver 2019 arrive. Le Covid s'installe. La mort attaque surtout les vieillards.
Bouf, ils étaient prêts à y passer de toute façon.
Donc on continue. En 2020, en 2021, on continue à fermer des lits dans les hôpitaux. Technique Castex. Droit dans ses bottes et cohérent avec lui-même. On n'embauche pas à l'hôpital. On épuise les soignants. Burn-out et démission. La médecine, c'est une vocation. Donc, les autres feront leur devoir. On n'embauche toujours pas. On ne verse pas les primes promises. Les soignants craquent de plus en plus.
Si vous y tenez tant, parlez-moi des affaires publiques. Encore que ce sujet me rende un peu mélancolique. Parlez-moi toujours, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule. Sauf le respect que je vous dois. Fille des chantres bêlants qui taquinent la muse érotique. Des poètes galants qui lèchent le cul d'Aphrodite. Des auteurs courtois qui vont en se frappant le cœur. parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Naguère, mes idées reposaient sur la non-violence, mon agressivité je l'avais réduite au silence, mais tout tourne-court, ma compagne était une gueuse. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Ancien enfant trouvé n'ayant connu père ni mère, coiffée d'un chaperon rouge, elle s'en fut ironie amère, portait soi-disant une galette à son aïeul. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Je l'attendis un soir, je l'attendis jusqu'à l'aurore, je l'attendis un an, pour peu je l'attendrai encore. Un loup de rencontre aura séduit cette fugueuse. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Cupidon, ce salaud geste qui chez lui n'est pas rare, avait trempé sa flèche un petit peu dans le curare. Le filtre magique avait tout du bouillon d'onzeur. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Ainsi qu'il est fréquent sous la blancheur de ses pétales, la marguerite cachait une tarentule, un crotal, une vraie vipère à la fois lubrique et visqueuse. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois. Que le septième ciel sur ma pauvre tête retombe, lorsque le désespoir m'aura mis au bord de la tombe, cet ultime discours s'exhalera de mon linceul. Parlez-moi d'amour et je vous fous mon poing sur la gueule, sauf le respect que je vous dois.
GIEC encore un peu. Le GIEC nous a prévenus depuis longtemps, mais il prévient encore une fois qu'il est urgent et vital, non pas seulement de se faire vacciner, mais d'accepter de porter le masque pour des années sans doute. C'est ce qu'annoncent les médecins épidémiologistes. Il est surtout vital de changer d'économie, car il est maintenant clairement établi que c'est notre industrie polluante et dévastatrice et nos élevages aberrants contre nature qui génèrent ces virus tout neufs et increvables. Mais quel gouvernement comprend ça? Quand les observatoires applaudissent à la reprise de la croissance avec quelques pourcents de ce qu'ils appellent le succès, facteur d'emploi et de prospérité, peut-être, mais pas pour longtemps, et toujours masqué. On peut se demander, en fait, pourquoi est-ce qu'on a tous plongé dans cette folie, dans cet abrutissement, cette passion, cette fringale insensée et inextinguible de consommer n'importe quoi. Pourquoi? Eh bien, pour ridiculiser le voisin. Pour garder sa femme, peut-être, ou pour éblouir celle d'à côté. Oui, mais les femmes, elles pensent autrement. Elles ont toujours pensé autrement. Et maintenant, elles ont choisi de s'exprimer. Ça va loin, très loin. On veut acheter n'importe quoi pour que les gosses fichent la paix. Pour que le gosse ait aussi le dernier jouet vidéo. De la même façon, ou même avant, le fils du voisin. On va acheter au gosse n'importe quoi pour déculpabiliser, parce que ça déculpabilise les parents, de ne pas s'occuper vraiment de leurs enfants. On va s'entourer d'objets inutiles, polluants, ridicules, coûteux, pour la glorieuse compète, la victoire de la force et du fric sur les autres. Ouais, réfléchissons un peu, c'est ça. Il s'agit d'être le premier à avoir la grosse bagnole
Autrefois, la télé en couleur, maintenant, les tablettes et dernier iPhone, dévoreur de terres rares, etc., etc. On veut absolument être à la pointe. À la pointe de quoi? De la connerie, monsieur, dame. Oui, c'est ma conviction. Et je la partage.
Un train s'appe déraillé et par accident. Un tunnel peut s'effondrer par accident. Un avion, ça peut tomber par accident. Une fusée, ça peut foirer, ça peut arriver. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale. C'est l'infaillibilité totale. Le piscotoli, 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 piscotoli. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, piscotoli. Un câble, ça peut casser et par accident. Une voiture peut déraper et par accident. Un incendie se déclarer. Ça peut arriver, mais pas aux centrales. C'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Piscotoli, 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 piscotoli. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, piscotoli. Un tunnel peut s'effondrer, une piste s'écrouler. Un ingénieur mal calculé. Un pétrolier peut s'échouer, une plateforme polluée. Et goudronner un océan. Le Titanic a coulé, le Tupolev est tombé. Et le Zeppelin a brûlé. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale. C'est la sécurité optimale. C'est l'infaillibilité totale. Le piscotoli, 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 piscotoli. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te péter à la radio, à la télé, dans les journaux, piscotoli.
J'espère ne pas vous avoir traumatisé. J'espère que on pourra partager ces réflexion douloureuse. J'espère, je ne sais pas en quoi. J'espère, je ne sais pas quoi. J'espère plus beaucoup en fait. Je vous remercie de votre écoute. Je vais prendre une quinzaine de jours pour me remettre à peu près d'équerre. Je vous ferai des podcasts tout de même les deux prochains samedis. Et puis, en septembre, on verra comment évolue la situation. Merci à tous. Bonne chance.